Si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 14. Et le verset sur lequel j'aimerais qu'on puisse finalement méditer aujourd'hui va être au verset 19. Mais on va lire le chapitre 14 pour se mettre dans le contexte. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce temps-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. » Donc, dans ce chapitre 14, on est dans la section, à partir du chapitre 13, où Jésus va faire finalement la dernière Pâque. Et mettez-vous un peu à la place des disciples et du Seigneur. C'est la dernière fois qu'ils vont manger ensemble, et c'est la dernière fois que Jésus va faire la Pâque. Cette fête qui rappelle à Israël d'année en année comment Dieu a libéré son peuple d'Égypte, qui était un type, une image de la vraie délivrance qu'un jour on aurait. Vous vous rappelez, finalement, ils sont sortis d'Égypte après un dernier soir d'avoir immolé un agneau, d'avoir mis le sang sur les linteaux à l'extérieur. Ils ont mangé durant la nuit pour partir après au matin. Et c'était le fondement de la nation d'Israël, de toute son histoire. C'est là que le peuple est devenu comme une réalité finalisée. Parce qu'avant ça, c'était les promesses faites à Abraham. Il y a eu finalement, ils étaient nomades, ils ne possédaient rien, ils étaient en Égypte. Et puis, après 400 ans, comme Dieu l'avait dit à Moïse, à Abraham, il viendrait pour libérer son peuple. Donc, c'est l'image que Jésus, finalement, est en train de célébrer avec eux. Et je ne suis pas sûr jusqu'à quel point les disciples sont conscients que ce repas, c'est le repas de Jésus. C'est sa fête à lui. Je ne sais pas comment on appelle une fête, une célébration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là. Jésus sait qu'il est en train de manger le repas du condamné à mort. Et quand il a commencé le souper, lui qui était depuis trois ans et demi avec eux, il a fait tant de miracles, tant d'enseignements. La foule, humainement parlant, était vraiment le rechercher partout. Au point que les autorités, dans leur insécurité chronique, sachant qu'ils perdaient contrôle sur la population, se sont dit « il faut se débarrasser de lui ». Mais si vous remarquez bien ici un point très important, j'espère que ça peut rentrer dans nos cœurs et dans nos têtes, c'est vraiment important. Tout ce qui semblait être le chemin du succès, Jésus le met aux poubelles. Si Jésus avait fait des élections, est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné ces élections? Honnêtement? Oui. Oui, parce que la foule, tout le monde le suivait. Pourquoi ils veulent le tuer, les autorités? Un peu plus loin, quand il va ressusciter, finalement, juste avant ça, quand il avait ressuscité Lazare. Vous vous rappelez? C'est un des derniers signes qu'il va faire, assez spectaculaire. Et il permet que Lazare, son ami, meure. Parce qu'il reçoit la nouvelle, tu sais, ton ami est malade. Et puis, il ne vient pas. Et il va dire à ses disciples, « OK, on va aller réveiller notre ami Lazare. » Et les gars sont tellement dans une interprétation littérale qu'ils vont dire, « Ben écoute, s'il dort, ça veut dire qu'il va mieux. Pourquoi tu vas retourner à Jérusalem puis dans cette région-là? Parce que Lazare est juste à côté de Jérusalem. » Et là, ils veulent te tuer. Tu sais, c'est... Non, non, ben si. Non, non, il est mort à cause de vous. Jésus leur dit, à cause de vous. Imagine-toi, les douze sont là. On ne l'a pas tué, nous autres, on n'a rien fait. C'est à cause de vous qu'il est mort. Non, parce que je vois en vous une incrédulité crasse. Vous êtes tellement attaché à votre manière de voir les choses. Vous êtes tellement attaché à votre idée que malgré trois ans d'enseignement, ça ne pénètre pas vos cœurs. Je ne réglerai pas le problème de l'humanité par des miracles à tous les jours puis par toutes sortes d'instructions. Je dois y mettre un terme. Je vous appelle à une nouvelle création. C'est dur à croire. Ce n'est pas dur à comprendre, ça se comprend. Tu as juste à dire, OK, c'est ça. Mais pourquoi ça ne rentre pas si facilement? Pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils commencent leur vie chrétienne, pourquoi beaucoup abandonnent? Beaucoup font des crises. Beaucoup crient contre le Seigneur. Beaucoup s'enragent contre le Seigneur. Parce que finalement, le Seigneur ne rencontre pas votre idéal. Votre idée de comment ça devrait marcher. Pourquoi on remet toujours le Seigneur en question plutôt que de se remettre en question en disant, peut-être j'ai mal compris, moi, là. Et là, le Seigneur va leur dire, non. Ça fait des millénaires, un millénaire et demi quasiment que vous mangez cet agneau, une fois par année. Vous n'avez pas compris? Comment je vous ai sorti d'Égypte? Alors, finalement, il va commencer le repas comment? Il se déshabille. Tu sais, tout le monde il s'en va dans la chambre haute, ils ont loué à Jérusalem. Et puis là, il se déshabille. N'oubliez pas, à l'époque, tu as deux vêtements. Tu as une tunique et un manteau. Les petites culottes, ça n'existait pas. Deux vêtements. C'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un veut ton manteau, laisse-y aussi ta tunique. Ça, ça dit, tu t'en vas tout nu. Ça va? Fait que tu dis, Seigneur, t'es sûr? Alors, le Seigneur se déshabille. Il prend un linge d'esclave, un linge pour quelqu'un qui s'en va laver. Tu sais, il met autour de lui, puis il s'append. Et puis là, il va se mettre à genoux avec un bol d'eau et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Les gars ne savent plus quoi dire, parce que c'est normal. Tu sais, nous autres, on dit souvent à nos enfants, « Allez, vous lavez les mains avant de manger. » Mais dans cette époque-là, tu ne te lavais pas juste les mains, il fallait que tu te laves les pieds parce qu'on mangeait sur un tapis. Tu comprends? Puis si tu mangeais à côté de quelqu'un dont les pieds n'étaient pas loin, bien, il avait marché dans la journée. Puis à l'époque, il n'y avait pas de pollution comme aujourd'hui. C'était organique. C'était bio. Alors, il fallait se laver les pieds. Et là, vous vous rappelez quand ça arrive à Pierre? Non, tu sais. Pierre, il est dans son idée, le Seigneur. N'oublie pas, si lui est le Seigneur, moi je suis son deuxième, si je suis le deuxième, tu sais, il y a une hiérarchie. Moi, puis Jésus casse encore une fois, sans arrêt, leur idée. Il faut qu'ils brisent pour pouvoir bâtir. Regardez comment l'appel de Jérémie commence. Tournez avec moi dans Jérémie au chapitre 1. Apprendre, ce n'est pas si facile que ça. Pas parce que c'est compliqué, c'est parce qu'on est boqué. Boqué, c'est un mot grec qui veut dire têtu. Au chapitre 1, verset 4, il dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » L'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Avez-vous qu'avant de bâtir et de planter, il y a une job de démolition à faire avant. Et Jésus, finalement, va finir sa job de démolition pour que la parole puisse germer. C'est pour ça qu'il va ressusciter Lazare, pour leur montrer qu'il est non seulement capable de ressusciter quelqu'un, parce que finalement, pour eux, c'est un faiseur de miracles. Ils sont impressionnés. N'oubliez pas que les prophètes aussi dans l'Ancien Testament avaient fait des miracles. Élie et Élisée ont aussi été utilisés par Dieu pour ressusciter un enfant. Vous vous rappelez? Alors pour eux, c'est quoi la différence entre Jésus et les prophètes de l'Ancien Testament? Jésus, ce n'est pas juste un prophète, même si c'est la parole de Dieu. Quand il va ressusciter Lazare, c'était pour leur dire quoi? « Je suis la vie et la résurrection. » Je suis. Il n'a pas juste dit « Dieu me donne le pouvoir de ressusciter. » Je le suis. Je suis. Le nombre de « je suis » que Jean emploie dans son évangile est incroyable. Alors là, il leur montre finalement « Je suis le Seigneur » quand il leur lave les pieds. Puis quand Pierre dit « Non, il dit « Si tu ne te laves pas les pieds, Pierre, tu n'auras aucune part avec moi. » Là, il va être prêt pour un bain. Non. Tu es déjà pur, mais tu vas marcher dans cette vie. et vous allez apprendre à vous laver les pieds les uns les autres. Il va dire, regardez, mon autorité maintenant, puis la puissance que je vais vous donner va se manifester dans le service, dans l'humilité. Vous n'êtes plus du monde. Le monde marche dans sa puissance et y étale sa puissance. Le monde veut impressionner par ce qu'ils ont. C'est important pour le monde d'avoir une grande réputation puis de travailler longtemps sur l'image. Ça contribue. C'est pour ça que vous voulez passer une nouvelle philosophie. Vous allez travailler sur l'image et les gens absorbent l'image. Je ne sais pas si vous remarquez finalement de plus en plus les publicités à la télévision. Il y a une propagande très subtile. C'est assez impressionnant. Tu vois quasiment plus de couples hommes-femmes. C'est toutes des couples hommes-hommes ou femmes-femmes. Avez-vous remarqué? Même j'ai vu passer un moment donné une annonce sur la Saint-Valentin, c'est deux gars. Eh bien, savez-vous quoi? À force de manger cette nourriture, la population va avoir avalé la couleuvre. Et ça va être normal d'accepter ça. Et si vous dites, on n'atteint pas le but si on... Les gens disent, vous êtes des intégristes, vous êtes des fous. Vous êtes... Non. Si on ne se nourrit pas de l'agneau, ce dernier repas où Jésus mangeait avec eux, il faisait manger une fois par année à Israël sans arrêt ce repas. Rappelle-toi de la délivrance que je t'ai faite. Comment je t'ai délivré. Bref, au chapitre 14, il commence à leur dire maintenant, et c'est le repas, et Jésus réalise très bien que ses disciples ne comprennent pas. Mais ce n'est pas grave. Il y a foi en Dieu et il y a foi dans son œuvre. Ça, c'est quand même encourageant. Au moins, il y a quelqu'un qui y croit, lui. Mais il y avait aussi quelqu'un d'autre que Jésus dit, « À toutes les fois que vous avez prêché l'Évangile, rappelez l'histoire de cette femme. » Est-ce que vous vous rappelez, c'était quelle histoire qu'il voulait qu'on associe à l'Évangile? Comment? Quand la femme, finalement, qui était Marie, la sœur de Marthe, en écoutant Jésus, elle est montée, finalement, chercher la bouteille, finalement, une bouteille de parfum qui sert pour embaumer. Et elle l'a ouvert, elle a oint les pieds de Jésus. Puis tout le monde était scandalisé. Et Judas a parlé en disant, hey, on aurait pu faire de l'argent pour les pauvres. C'est quand même incroyant comment l'Église peut abandonner facilement son Seigneur, mais elle se justifie dans ses bonnes œuvres. On s'occupe des pauvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des pauvres, mais combien de fois le Seigneur est mis dehors, mais vous allez remarquer comment les gens peuvent s'investir dans des bonnes œuvres. Et là, soulignez ça, rappelez-vous de ça, bonnes œuvres, OK? Bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Fait que Jésus, finalement, il la protège. Arrêtez d'être méchant contre elle. Elle le fait pour la journée de mon enterrement. Elle écoute quand je parle, contrairement à vous, que vous êtes simplement m'écouter en vue de votre position, votre plan. Il écoutait Jésus, même les apôtres, toujours en se demandant quand il va rentrer dans son royaume, quand il va établir son règne. OK, moi, je vais être le premier ministre. Et puis, parce que qu'est-ce qui était la grande discussion qu'ils avaient entre eux tout le temps? Qui est le plus important parmi nous? Puis Jésus faisait exprès pour les déstabiliser. À toutes les fois qu'il faisait quelque chose de spectaculaire, il en prenait toujours trois, toujours les mêmes. Ça, là, si tu veux créer des crises de jalousie dans un groupe, fais ça. Il me semble, François, tu aurais dit au Seigneur, ce n'est pas une bonne méthode de faire ça, tu vas avoir de la chicane dans ton groupe, là. Pas vrai? Mais il en veut de la chicane, le Seigneur, parce que la chicane va révéler le problème, va révéler les motivations. Alors, finalement, il leur dit, maintenant, je vous demanderai d'avoir confiance en Dieu et confiance en moi. Et il continue, et surtout à partir du verset 14-15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot « autre », vous l'avez déjà entendu, c'était dans le grec, souvent les Grecs ont été très précis sur les nuances. Hein? Ça a été une langue absolument incroyable, mais Dieu était derrière ce peuple qui philosophiquement ont essayé de comprendre les choses, mettre des nuances très subtiles, beaucoup plus subtiles en passant que dans l'hébreu. Et il a fait écrire la bonne nouvelle dans leur langue, le grec, avec toutes les petites nuances. C'est pour ça que si vous prenez des cours en faculté, ne soyez pas frustré que vous êtes obligé de prendre des cours de grec et d'hébreu. Parce que le grec, entre autres, va vous aider énormément à voir les nuances qu'on ne peut pas rendre dans nos textes. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, est-ce que tu voudrais une autre tasse de thé? Puis si vous dites, OK, oui. Et là, je prends votre tasse, puis je m'en vais en remplir une autre. Vous allez dire, non, tu aurais pu faire ça dans la même tasse. Parce que notre mot « autre », il reste juste « autre ». Mais chez les Grecs, tu as « alos » ou « ala » et tu as aussi « hétéros ». Donc, tu as un autre de même pareil, puis tu as un autre pas pareil. Et là, le Seigneur parle ici d'un autre différent, mais pareil. Un autre pareil comme moi qui s'en vient. Tu comprends? Et donc, c'est pas « veux-tu une nouvelle tasse, veux-tu une autre tasse de thé? » Eh bien, il va dire « voici, je vous envoie un autre. » Le Père va vous envoyer un autre consolateur, mais un autre consolateur de la même nature que moi. Mais si vous entendez ce que je vous dis, vous allez vous réjouir si je vous dis que je m'en vais vers mon Père. Maintenant, honnêtement, si on avait la chance d'avoir Jésus en personne ici, est-ce que Jésus voudrait, il vous est avantageux que je m'en aille auprès du Père? Est-ce que vous pensez que vous auriez dit, ben oui, hein, il faudrait que tu t'en ailles, ce serait le fun? Est-ce qu'on aurait dit ça? Il est là en personne, il répond aux questions quand on lui pose une question, il est là, là, il est là, là, là. Mais encore une fois, on reste tellement pris dans nos idées. C'est dur de se débarrasser de nos idées pour apprendre pour vrai. Parce que la plupart d'entre nous, on n'apprend pas. On essaie de consolider ce qu'on pense savoir. On cherche à confirmer l'idée qu'on s'est faite, surtout dans ce qu'on espère. Alors Jésus dit, un peu plus loin, là. Mais le Consolateur, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, quel est l'avantage? Il est là, Jésus. Alors, regardez ce qu'il dit un peu plus haut, au verset 17. Après d'avoir dit au verset 16, « Et moi, je prie le Père pour qu'il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, si vous êtes régénéré, vous avez le Saint-Esprit, il est éternellement avec vous. C'est assez clair. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. » Le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. « Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. » car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, je vais juste faire la nuance ici. Jésus leur dit à ses disciples en ce moment, « Vous le connaissez, vous l'avez vu, il demeure avec vous. » Et là, il dit, « Au futur, il sera en vous. » Donc, comment ils l'ont connu, le Saint-Esprit, que Jésus dit, « Vous l'avez vu? » En voyant Jésus. Mais le Saint-Esprit est en Jésus. Et toute leur vie, pendant trois ans et demi de temps, qui ont suivi Jésus, qui ont fait la volonté de Dieu, ça a été par ce que Jésus leur disait. Mais le Saint-Esprit était qu'en Jésus, et pour discerner le chemin de Dieu, la volonté de Dieu, cette nourriture que Jean nous rappelle au chapitre 4 de son même évangile, cette nourriture que Jésus appelle une nourriture que vous ne connaissez pas, on aurait pu ajouter encore. La nourriture du croyant, c'est d'avoir discerné la volonté de Dieu et d'y marcher. Un croyant qui n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu, il s'affaiblit de plus en plus. Comme une personne qui n'arrive pas à trouver de la nourriture pour manger, pour se faire des forces, inévitablement, tu peux le faire pendant un certain temps, pas vrai? Tu sais, on peut arrêter de manger pendant une certaine période. Mais il arrive à un moment que ça commence à être critique et on commence à s'affaiblir. Et dans les Proverbes, il est dit quelque chose d'intéressant chez ceux qui ont faim. Même les choses amères leur paraissent douces. Mais celui qui est rassasié, il foule le rayon de miel. Alors, un croyant qui n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu, il commence à avoir des symptômes de faiblesse spirituelle. Un des premiers symptômes de faiblesse chez le croyant, c'est quoi d'après vous? En contraste, c'est quoi l'opposé d'être faible? OK. Et qu'est-ce que la force du croyant, selon les Écritures? La joie du Seigneur est ma force. Et c'est une des choses que le croyant commence à perdre, la joie du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il retrouve? Ce que le peuple d'Israël avait dans le désert, le murmure, le murmure. Et Dieu faisait mourir ceux qui murmuraient. Parce qu'en réalité, ils ne se nourrissaient pas du Seigneur. Dieu était au milieu d'eux en manifestation avec une colonne de feu et de fumée. Dieu parlait audiblement à Moïse. Je veux dire, quand vous voulez savoir si votre pasteur est vraiment un gars appelé de Dieu, je pense que pour Israël, dans le désert, c'était pas compliqué. Non? Tu sais, quand tu vois ton pasteur aller chercher le message à la tente d'assignation, la colonne apparaît. Et puis là, tu entends même la voix du Seigneur, « Bonjour Moïse! » Tu sais, je pense qu'il a reçu le message au matin, hein, Kirbin? Et même là, combien de fois il a manqué de se faire lapider, Moïse? Quand certains, Dathan, Abiram, Coré, disaient, hey, « Toujours toi qui parles, Moïse! On est tous saints! Femme de gueule! On va tous parler, c'est... » Moïse attend. Parce que finalement, les gens ont perdu une chose de vue. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume du monde. Dans le monde, c'est la plus grande gueule puis le plus fort qui le remporte. C'est celui qui arrive à détruire la réputation des autres puis s'en faire une par-dessus les autres. C'est comme ça que ça marche, le monde. On est en plein processus d'élection là, pour la chefferie du Parti conservateur. Vous allez entendre du démolissage à grand V. Vous allez voir, ça va être épeurant. Puis quand les élections vont arriver, c'est encore plus de marmelade qui s'étend. Parce que c'est le monde. Dans le Seigneur, rien ne fonctionne à moins que Dieu ait appelé. Rien. Le Seigneur nous dit clairement, à moins que l'Éternel bâtisse la ville, ceux qui bâtissent, si ce n'est pas l'Éternel qui a appelé une ville à être bâtie, bâtissent pour rien. Ceux qui gardent, si l'Éternel ne garde pas une chose, vous gardez pour rien. Par contre, quand le Seigneur appelle, le royaume de Dieu fonctionne par appel. Et puis en faisant l'étude brièvement là, sur l'évangile de Jean, Moni, j'en venais pas le nombre de fois que le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai appelé, j'ai été envoyé, appelé. J'ai regardé juste dans ma concordance ce matin, jusqu'à combien de fois il y a le mot envoyé. Tu sais, quand il a guéri l'aveugle, là, il a craché à terre, fait de la boîte, mettre ça à ses yeux, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et Jean nous traduit ça dans le grec, en passant, ça veut dire le réservoir de l'envoyé. Jean, il fait un évangile sur l'envoyé. Et puis finalement, j'ai regardé ça, ça vous voit dans ma Bible, en tout cas. Dans l'évangile de Jean, il y a 48 fois le mot envoyé. Sans compter les autres mots du même genre, tu sais, comme « je vous envoie », par exemple, dans Jean 20, 21, quand Jésus dit « le Père m'a envoyé, maintenant moi, je vous envoie », ce qu'il a dit aussi dans Jean 17, quand il a prié pour eux autres. « Si moi j'ai été envoyé du Père, maintenant le Père me donne toute autorité, maintenant moi, je vais vous envoyer. » L'Église a un mandat. Et si on n'apprend pas à vraiment découvrir le vrai plan de Dieu et qu'on a transposé plutôt la manière du monde dans l'Église pour essayer de fonctionner, puis qu'on ne comprend pas finalement l'appel. Je parlais avec un frère un matin, puis je dis, la réaction moi, qui m'a toujours fait rire, puis ça, quand je vais aller voir Pierre, je vais lui dire, écoute, c'est-tu pour ça, Pierre, que tu as dit? Moi, j'ai toujours été impressionné que quand Pierre, qui est toujours le porte-parole, hein, dit, il y en a toujours un dans un groupe qui parle pour tout le monde. Tu sais, les autres sont bien contents, ils pensent, mais ils ne l'ont pas dit, ça fait qu'ils font semblant qu'ils n'ont pas dit une affaire de même. Mais Pierre, il parle tout le temps. Et quand ils sont en train de ramer, vous vous rappelez? Jésus les avait commandé, non, allez de l'autre bord. Puis ils n'ont pas voulu, non, puis il dit, c'est un ordre. OK. Mais là, il dit, les gars, il n'y a rien qu'une chaloupe qui reste. Allez. OK. Fait qu'ils rament, ils s'en vont. Puis là, il y a du vent, des courants, tu sais, je dis, c'est la nuit. Je dis, les gars paniquent, c'est ça. Et ils entendent, ils voient une silhouette arriver sur l'eau. Ça doit être épeurant, ça, quand même. Pas vrai? Hey! Moi, j'ai juste une fois, j'étais dans un canot, il y avait un monsieur Tremblay qui m'avait prêté son chalet, très tranquille. Fait qu'un matin, je prenais le canot, tu sais, j'allais sur le lac, très tranquille, tu sais. Puis à un moment donné, j'entends POUR! À côté de moi. Faut que j'ai manqué de chavirer le canot. C'est un castor qui a passé à côté de moi, puis il a snappé en disant Hey, t'es chez nous! OK, hey, OK. Fait que juste ça, un castor, ça m'a fait lever dans ma chaloupe, tu sais. Imagine voir quelqu'un marcher la nuit sur l'eau. Tu rentres un petit peu nerveux. Les gars se sont mis à crier. Ils se sont mis à crier. Puis le Seigneur a dit, « Paix! Shalom, mes frères! Shalom, c'est moi, les enfants! » Et Pierre, là, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, appelle-moi! » Je n'ai jamais compris celle-là. Moi. Il me semble que Matthieu devait être à rame à côté en disant, tu aurais dû lui demander ses papiers à la place, c'est pas plus safe. Parce que si c'est pas lui, tu vas couler, mon pauvre toi, tu veux dire. Et puis, finalement, il entend quoi? Viens! À l'école de Jésus, on n'était pas à l'école des pharisiens. À l'école des pharisiens, on apprend toutes les règles. On apprend à être bon, on apprend à être meilleur, on apprend toutes sortes de choses. On veut dépasser tout le monde, et puis on juge toutes les autres. Toutes les autres sont des méchants, rien que nous autres qui a compris, c'est... Jésus dit, non, ça ne sera pas mon école, ça. Non, les gars, regardez, vous allez rester comme vous êtes, là. Puis je vais vous apprendre juste une leçon. Ah, tu vois, on va devenir meilleur que les pharisiens? Surtout pas! Vous allez juste rester qui vous êtes, puis je vais vous apprendre une règle qui va en découler deux autres. La première règle, c'est que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, Jésus, t'es sûr, parce qu'on a déjà fait bien des affaires avant que tu arrives. Hein? Bien, c'est ça votre problème. Jésus dit, le monde ne me verra plus, mais vous, je vais revenir vers vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Maintenant, c'est quoi d'avoir finalement le privilège que Jésus revienne vers nous et pas pour le monde? Arrêtez de penser que l'Église puis le chrétien fait des meilleures œuvres qu'une personne qui n'est pas sauvée. Enlevez ça de vos têtes une fois pour toutes. Arrêtez de penser qu'une œuvre chrétienne, c'est une œuvre ultra merveilleuse. Non, ça peut être fait par un imbécile. Mais c'est une œuvre que Dieu demande. Si le Seigneur, regardez bien, si le Seigneur, je l'avais enseigné ça, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, mais je sais qu'il y a une jeune génération qui n'a pas suivi le cours d'éthique ici. Là. Regardez, si le Seigneur nous dit, il dit à quelqu'un, « Sylvain, assis-toi. » Il discerne la volonté de Dieu qui est de s'asseoir. Maintenant, est-ce qu'on est en train d'observer comment il s'assoit? Il s'assoit chrétiennement. Il s'assoit en païen. Boum! Le but, c'est qu'il s'assoie parce qu'il a discerné la volonté de Dieu qui est « assis-toi ». Dieu, quand il appelle, il justifie. Il faut arrêter de penser qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres. En passant, quand quelqu'un du monde fait une bonne chose, n'ayez pas peur de dire « très bon ce que tu as fait là ». Parce que derrière toute chose bonne dans le monde, Dieu est toujours souverain là-dessus. L'être humain reste toujours à l'image de Dieu. L'être humain aime faire des bonnes choses. Combien de gens viennent en mission avec nous pour faire des bonnes choses? Ils ne sont pas croyants. Puis des fois, on a moins de troubles avec eux autres qu'avec les croyants. Je me rappelle une personne, c'est une manière de mesurer, toujours intéressant. Bonne personne, bien gentille, tu sais, ça faisait une fois ou deux qu'elle venait, puis elle avait ramassé son argent, puis elle était revenue, puis là, elle est venue nous voir à l'aéroport, elle dit, écoute, moi j'aimerais ça quand même être dans tel département, faire telle chose, tu sais, parce que j'aime... Je veux que ça soit significatif. Je dis, OK. Parce que dans l'un des voyages, je pense qu'elle avait été nettoyer les toilettes, quelque chose du genre. Fait que là, elle voulait graduer, tu comprends? Fait qu'elle est venue me voir en me disant, gars, j'aimerais que ça soit significatif, ce que je vais faire. Puis elle y tenait. C'est pas quelqu'un qui croit. Fait que, tu sais, je me dis, ah, il n'y a pas de problème, on va trouver quelque chose de significatif. Tu sais, c'était, je pense que soit dans le médical ou à la pharmacie ou quelque chose du genre, elle était bien contente d'aller là, parce que là c'était, wow, là, je suis utile. Ça, c'est une personne qui cherche de la justification de sa vie, un sens à sa vie, dans ce qu'elle fait en espérant qu'elle soit reconnue. Le croyant, Jésus nous dit, vous, là, vous êtes déjà reconnu, vous êtes aimé, vous êtes sauvé, vous êtes justifié. Maintenant, cherchez plus des choses pour devenir. Vous êtes. Je suis avec vous. Maintenant, cherchez ma volonté parce que je vous fais prendre part à la nouvelle création, à tout mon héritage. Le but du croyant et le but d'une assemblée, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Puis faites attention, il y a deux manières de voir ce qui se passe dans une église. voir ce que le Seigneur est en train de faire. Seuls ceux en communion avec lui vont voir ce que le Seigneur fait. Mon travail en tant que pasteur, c'est sûr, c'était d'enseigner. Mais en même temps, un de mes domaines de ma responsabilité en tant que pasteur, en tant que conducteur, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, c'est d'observer l'Assemblée sans arrêt pour voir à qui Dieu envoie le ballon. Pour voir finalement si il y a, parce que des gens viennent, il y a bien des gens qui nous proposent toutes sortes de projets, hein. Hey, on devrait faire ci, hey, on devrait faire ça. Hey, on ne fait pas assez ci, hey, on ne fait pas assez ça. OK, pas de problème. As-tu vu quelqu'un qui le fait en ce moment? As-tu vu quelqu'un qui a ce fardeau-là en ce moment de le faire? Non, 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 mais si on lui donne la responsabilité, il va le faire après. Ah bon, après il va le faire. S'il ne le fait pas avant, pourquoi il va le faire après? Pour garder une job? En réalité, tu veux voir qui Dieu, par sa vie dans le croyant, est en train de produire ce qu'il demande. J'ai écouté le message de Gilles Lapierre dimanche, c'est excellent. Tu sais, vous rappelez quand il a dit finalement qu'il avait reçu finalement le mandat d'une petite église qui venait de passer une crise? Et puis là, quelqu'un il avait dit, regarde, il faudrait que tu aies un ancien avec toi, il faudrait que tu aies un diacre avec toi. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu envoies un ancien en ce moment dans l'église? Tu sais, qui s'occupe des gens, qui les visite, tout ça? Non? Bien, c'est qu'il n'y en a pas. Ben oui, il faudrait que tu aies un diacre, puis tu as dit, OK, tu vois-tu quelqu'un qui sert en ce moment? Non? Bien, il n'y en a pas. Pourquoi il va servir après que tu lui donnes un titre? Donc, ça veut dire que quand tu donnes un titre, tu essaies de stimuler la chair de quelqu'un pour servir. Et en passant, tu ne veux pas avoir personne qui sert dans sa chair. Parce que moi, vous dire une chose. Moi, j'ai 40 quelques années d'expérience dans le ministère. Ça marche? Certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés que j'ai commencé. J'ai appris une leçon assez tôt. Tous ceux qui servent dans la chair, ils t'envoient une moyenne facture en temps et lieu. Ce n'est jamais gratuit ce qu'ils vont faire pour toi. Ni pour le Seigneur, ni pour l'Assemblée. Puis crée-moi, les factures sont salées et sont épaisses. Grosse crise, ils vont faire toutes sortes d'affaires. Moi, je ne veux pas voir quelqu'un servir dans sa chair. C'est pas grave, tu vois, ça va passer. Donc, le Seigneur dit, « Le monde ne me verra plus. » Donc, je ne peux pas chercher le Seigneur par les œuvres du monde, parce que ce n'est pas comme ça qu'on les distingue. Qu'est-ce que Moïse a dit au Seigneur dans l'Exode, au chapitre, je pense, 30 ou 33, lorsqu'il prie le Seigneur en disant, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu sais, regarde. » Puis le Seigneur dit, « Vas-y, il y a un ange qui va aller avec toi. » Il dit, « Non, non, si tu ne viens pas avec nous autres, on ne part pas. » Il a dit, « Distingue-nous des autres peuples. » Moïse a prié que le peuple d'Israël soit distingué de tous les autres peuples de l'époque autour de lui. Maintenant, comment Israël peut être distingué? En d'autres mots, on va prendre la question plus simple. Comment un peuple se distingue d'un autre peuple habituellement? L'habillement, OK, c'est une chose. Là, on s'habille tous à la manière américaine à la grandeur de la planète, fait que ça ne marche plus. Comment? La langue, oui, mais plus impressionnant que ça. Comment un peuple est vraiment un peuple? Tu sais, qu'ils disent, wow! Comment? Il habite un pays, OK, mais encore plus que ça. Comment un peuple se distingue d'un autre peuple? Là, les drapeaux, l'armée, en réalité, c'est ses accomplissements. La France se distingue comment des autres nations? Bon, tu vois. Les Hollandais? La bière? L'Égypte? Pyramide? Babylone avec les jardins suspendus, les Américains, Big Mac à la grandeur de la planète. Les gens se distinguent par des accomplissements qu'ils ont faits. Tu sais, dans le sens, Moïse, regardez, Moïse dit à Dieu, distingue-nous des autres peuples. Écoute, ils viennent de sortir de l'Égypte, là, avec des moyennes pyramides, des temples incroyables, une structure de société. Écoute, en passant, si tu veux choisir à vivre dans un pays à l'époque, tu veux aller vivre en Égypte. C'est propre, c'est organisé, c'est structuré. Je veux dire, c'est impressionnant, c'est une des plus grandes puissances du monde. Ils savent comment s'organiser, pas vrai? Tu n'arrives pas à quelque chose si tu ne sais pas comment t'organiser. Ils ont le génie d'accomplir des choses absolument incroyables. Imaginez le peuple de Dieu, il est pogné en sandwich entre deux hyperpuissances de l'époque, même peut-être trois avec les Hittites, dans la Mésopotamie et puis l'Égypte. Dieu, il demande à Dieu, distingue-nous des autres peuples. Tu dis, comment? Tu vas faire des plus grosses pyramides? Non. Moïse a compris. Parce que différemment, je pense que c'est dans le psaume 106 ou 107, je ne me rappelle plus, ou 103, tu sais, qui est dit, le peuple, son peuple a été impressionné par les hauts faits de Dieu, mais Moïse a connu les voies du Seigneur. Il y a une différence entre les deux. Ici, dans les Évangiles, Jésus met un petit groupe à part de la nation d'Israël. En passant, la nation d'Israël, à l'époque de Jésus, sont tous très impressionnés des hauts faits de Jésus. Ils sont tous en train de vouloir le suivre, c'est pour ça que les autorités veulent le tuer. Le peuple est impressionné par les hauts faits, mais ils n'ont pas connu le chemin. Ils n'ont pas connu les voies du Seigneur. Et même ceux que Jésus s'est mis, 103, merci, verset 7, 103, 7, je qu'il y en a 3, 7, quelque part là-dedans, c'est super. Et donc, si tu le lis, juste pour vous? Tu as perdu ta page? On va arriver avant tout, je pense. On va essayer de voir qui c'est qui est le premier qui arrive. Psaume 103, verset 7, dit, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Si vous avez à choisir entre les deux, choisissez ses voies. V-O-I-E-S, pas V-O-X, là. V-O-I-E-S. Ses chemins. Parce que qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous connaissez le chemin. Hé, hey, on ne sait pas où tu t'en vas. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Trop souvent, on prend Jésus comme un moyen pour arriver à quelque part plutôt que le but. Il est le but. Quiconque a rencontré le Seigneur a rencontré Dieu. Et quiconque est en communion avec le Seigneur est en communion avec celui qui justifie ce qu'il nous demande. Il justifie nos vies. On a une vie incroyable à explorer. Mais quand vous perdez la joie du Seigneur, c'est facile à savoir. Si vous vous voyez en train de murmurer, « Mais t'as pas bien, t'as pas bien, t'as pas bien, t'as pas bien, t'as pas bien. » Ça va pas bien, change de bain, tu vas prendre une douche. En réalité, retourne au Seigneur en disant, attends, j'ai-tu manqué quelque chose? Est-ce que je me suis nourri ailleurs? Est-ce que j'ai été souillé? Est-ce que j'ai été séparé de la communion avec toi? Quand tu ne vois plus ce que Dieu fait dans ton assemblée, quand Dieu n'est plus en train de t'appeler, tu ne l'entends plus, je vous dis ça parce qu'en tant que pasteur, je vous le dis, en tant que berger de l'assemblée, parce que Paul exhorte Timothée en disant, tu dois enseigner et corriger. J'entends des gens qui disent à l'Assemblée, moi ça ne me parle plus à l'Assemblée. Les messages ne me parlent plus. Il y en a un qui ne me parle plus. Ben, je dis, tu es dans une position très dangereuse. Très dangereuse. Si le Seigneur ne te parle plus, il y a deux raisons possibles. Ou il y a quelque chose qui a voilé ce que Dieu fait au milieu de nous, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens dans l'Assemblée qui disent au contraire, qui entendent le Seigneur, que les messages leur parlent, qu'ils sont motivés, ils voient la présence de Dieu dans l'Assemblée. Mais si le Seigneur ne te parle plus, c'est ou bien il s'est passé quelque chose de souillé dans ta vie qui fait que tu ne l'entends plus, et tu es plutôt en train de te nourrir de l'accusateur des frères, ou bien tu n'es pas invité au projet que Dieu fait à cette Église. Trouve ta prochaine équipe rapidement. Je ne dis pas ça, là, avant je le disais plus radicalement, la porte est ouverte, tu peux partir. Là, je vous dis, par amour pour vous, il y a eu un jour, après 20 ans de ministère avec Bible Speak Greater Grace, où on s'est aperçu que là, si je continuais avec eux, si notre mouvement continuait avec eux, si nos églises continuaient avec eux, c'était dans un compromis de conscience. Assez de discuter avec eux, ils n'ont rien voulu savoir, pas de problème. On dit, OK, j'ai demandé leur bénédiction en passant. Je ne les méprisais pas, ce n'est plus de mes oignons, ce n'est pas moi leur juge. Moi, je savais juste que personnellement, en tant que pasteur, et j'ai mis les autres pasteurs de la province à faire leurs propres décisions aussi avec leurs conseils, mais moi, en tant que pasteur, je savais que je pouvais aller plus loin avec quelqu'un qui me mentait en pleine face, quelqu'un qui manipulait, quelqu'un là, qui n'était vraiment pas clair. Alors, finalement, après un mois ou deux d'essayer d'aller les rejoindre, de parler avec eux autres, ils n'ont rien voulu savoir, eh bien, on est descendu, tous ceux qui avaient décidé de dire « OK, on va se séparer ». Je disais avant, les gars, on va descendre, voir s'il y a encore une autre chance de discussion. Sinon, on va demander qu'ils prient pour nous. Non, mais écoute, ils te mentent en pleine face. Ça ne vaut rien leur prière. Non, attends, ce n'est pas le gars qui prie. C'est le gars en position qui prie. Le Seigneur s'arrangera avec celui qui est dans cette position-là, en temps et lieu. Fait qu'on est descendu, essayé de rejoindre les gens, ils se sont sauvés comme des lapins. Et puis déjà, ma réputation était scrap, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu certains pasteurs qui me regardaient, tu sais. J'ai même pas parlé avec lui, ça veut dire que la nouvelle est déjà répandue à grandeur. OK. Et là, j'ai pogné finalement celui à qui j'étais soumis, Dr. Lewis. Il était dans son cours, j'étais là. Pour lui, bad news. Oh non, pas lui, c'est. Là, je l'attends. Il sort. On s'en va à l'hôtel Holiday Inn à côté, où on était. Et puis, on discute avec lui, il ne veut rien savoir. Je dis, OK, on va s'en aller. Mais avant, priez pour nous. Puis, il était comme... Je dis, non, vous allez prier pour nous. Puis même, je me rappelle de voir encore une couple de pasteurs qui sont avec nous autres aujourd'hui, qui me regardaient en voulant dire, ça ne vaut rien, sa prière? Hey, moi, je crois à l'autorité déléguée. Ça ne veut pas dire que celui qui est en position, il est correct. Mais la position, on va la respecter. Alors, finalement, il ne voulait pas. J'ai pogné le bras. Dr. Lewis, c'est assez gros, hein? C'est assez grand. Pogne le bras. Pastor Jeff, come on, let me. Non, non, non. I can stay here for a long period. Moi, je m'inspire des histoires de la Bible. Jacob, quand il a pogné l'ange de l'Éternel, je te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni, même s'il s'est fait déboîter l'ange, tu comprends? Puis je l'ai tenu, je dis, non, non, moi là, j'ai été soumis. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites par vous, beaucoup de choses que Dieu a faites par ce ministère. Maintenant, ça a l'air que c'est fini. Moi, je pars, je veux pas être négatif, je veux pas avoir du murmure dans ma tête, je veux pas que ça scrape ma vie parce que j'en ai trop vu de chrétiens qui sont partis d'église mal et ça a scrapé le restant de leur vie chrétienne. Ils n'ont plus jamais marché avec Dieu parce qu'après ça, toutes les églises sont des méchants. Fait que, moi, je l'ai pogné. Je dis, non, you're going to bless us before we go. Come on, pastor, come on. Ça va. Puis moi, j'attends. Moi, je vis devant un Dieu qui est vivant. Puis peut-être que le Seigneur riait en disant, il est assez fou pour rester là. Fait que je le tenais, j'attends. OK, OK. Puis il a prié, vraiment une belle prière. Dieu bénit, demandez que Dieu nous garde, qu'il nous garde dans sa parole, qu'il nous foutait. Puis à la fin, je dis, amen. J'ai lâché. Et on est 20 ans plus tard quasiment, puis... On n'a pas scrappé le mouvement. Donc, s'il y en a qui pensent encore que moi, je suis le méchant, OK? Que je suis le méchant, là, puis que j'ai fait une grosse victime, et puis que je ne suis vraiment pas fin. Arrêtez de chiquer la guenille, prenez une décision virile, et puis soit vous restez en disant, moi, c'est ici que je connais le Seigneur, et puis ici, c'est une église qui a toujours été bien claire. On est des fous qui savent qu'ils sont fous. Si vous ne le savez pas encore, on va vous l'apprendre. On est des fous qui savent qu'ils sont fous. C'est pour ça qu'on dépend du Seigneur à tous les jours. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas la meilleure église. On n'est pas le meilleur mouvement. Comprenez? On est simplement des pourris qui ont cru au Seigneur, qui a dit, j'ai payé votre dette, je vous ai lavé, maintenant vous faites marcher avec moi, arrêtez de vous regarder, ni à vos vices, ni à vos vertus. Regardez, ni à vos vices, ni aux vertus. Regardez à moi. Je vous ai appelé, maintenant, soyez observateurs de ce que je fais au milieu de vous. Et puis depuis les années 80, le Seigneur n'arrête pas de faire des choses incroyables. Avec ton père, quand on était en plein jeûne et prière, quand le Seigneur nous donne une parole, puis je sais qu'il y en a des anticharismatiques ici qui ont de la misère avec ça, mais qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis né de nouveau du côté charismatique de la maison. Ça fait que j'ai gardé un petit peu de ça, là, tu sais, parce que ou bien le Saint-Esprit est vrai, ou bien on n'a pas pantoute, puis il reste juste un petit livre de morale à lire, puis bien déprimant, là. Ou bien le Seigneur est vraiment là. Alors, finalement, dans ce temps-là de jeûne et prière, je me rappelle, je pense que ton père a tombé sans connaissance une fois, tu voulais le ramasser. On était un peu excessifs dans nos jeûnes et les prières, mais on voulait avoir la parole du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur nous a donné, entre autres, une vision claire que on était un petit groupe qui ne savait plus où s'en allait. Moi, j'étais complètement découragé parce que je sors d'une crise à Codonia et à Vergèse et à Nîmes. Les églises que j'admirais de tout mon cœur, qui m'ont amené au Seigneur, qui m'ont donné mon appel, ou qui ont dit que j'avais un appel, est en crise et en division. Et là, tout le monde te demande de prendre leur parti. Moi, je les aime toutes, je ne comprends pas ce qui est arrivé là. Je suis revenu complètement troublé. Tellement troublé que ça avait sapé mon goût de continuer à m'occuper d'un groupe en disant, « Wow, on s'en va s'asseoir dans une petite église, on va m'occuper à serrer les souliers du pasteur, moi, je ne veux plus que de rien ici. » Mais juste avant que je le fasse, « Seigneur, parle-moi. » Et c'est là que j'avais commencé à jeûner. Yves est venu me rejoindre, tu te rappelles? Tu avais lu ton petit livre, tu m'invitais tout le temps à dîner. Pourtant, tu ne m'invitais jamais à dîner avant. Je comprends. Et savez-vous quoi? Ça a déclenché dans tous nos petits groupes un temps de jeûne, de crier à Dieu. Et entre autres, c'est là que le Seigneur nous a montré, vous allez finalement aller édifier mon peuple en Haïti. Ah bon? Mais comment on fait pour savoir si c'est le Seigneur qui nous parle? Le Seigneur, quand il nous parle, à toutes les fois que le Seigneur m'a parlé, il m'a toujours donné un genre de petite toison extérieure. Il ne m'a jamais demandé de faire ce que je pensais qui était sa vision. Parce qu'un de mes pasteurs m'avait enseigné, entre autres, si tu penses que le Seigneur te donne une parole, attention, n'essaye pas de la réaliser. Il te dit ce qu'il lui va faire. Reste fidèle et il va t'amener dans sa volonté, tu vas le voir. Ça, c'est quelque chose que j'ai regardé pour m'empêcher de me lancer dans 25 000 idées qui te passent dans la tête. Là, tu sais. Et je me rappelle, ce qu'on avait vu, c'était un bateau blanc. Moi, j'étais là, tu sais, en vision, je ne voyais rien, tu comprends? Il est où le bateau? Et puis, je me rappelle, ton père nous avait dit, à moi, par Richard, Chopin, il dit, en passant, tu es un de vous autres, les gars, qui savent naviguer un navire? Un canot, une chaloupe peut-être, mais un navire, non. Et ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Tu te rappelles? Le gars, il s'est dit, hey, il a été à l'école, il a appris tout ce qu'il faut pour naviguer des navires. Aujourd'hui, il y a une compagnie de voiliers. Donc, c'est vrai ce qui est arrivé. Et puis là, un moment donné, le temps passe, un an, deux ans, puis quelques mois après, il nous amène à Bible Speak. Puis là, c'est hey, nos rêves, nous autres. Tout pète, parce qu'on a l'impression que ça ne marchera pas avec eux autres. Eux autres, en plus, c'était des anticharismatiques totales. Bon, tu sais, OK. Fait que là, c'est gênant de dire, j'ai été appelé. Quand est-ce que tu as appelé? As-tu ton diplôme? Non. C'est que mon pasteur en France, quand il priait pour chasser un démon d'incrédulité, ben, il a découvert que j'avais un appel, il paraît. T'es donc fou? Je le sais. Non, il n'y avait rien qui marchait dans la nouvelle gang. Rien. Vision pour Haïti? Ah oui, on a eu une vision. Mon chum avait un bateau blanc. Ben oui, c'est ça. Y avait-tu des ailes? Puis des licornes dessus, peut-être? Là, j'étais dans une gang qui démolissait tous mes rêves. Je disais, écoute, si tu m'as appelé, ben c'est ton problème à toi. Là. Et le Seigneur, sans arrêt, il a fait arriver. Parce qu'un jour, je t'ai appelé, deux, trois ans plus tard, tout ça, je me suis dit, ah, ben écoute, on s'est fait accroire des histoires. Et Ed Canino, qui était en charge de la mission à l'époque, il m'appelle, il disait, on a besoin d'un pasteur qui parle anglais-français parce qu'on a acheté un navire, le navire que Yves avait été chercher, entre autres, c'était où déjà? En Norvège. Et tu sais, c'est lui qui a sacré le camp en plein milieu de l'Atlantique. Mais il s'est nagé. Il était prêt à aller jusqu'à l'autre rive. Et savez-vous quoi? J'ai dit, OK. En mois de février, c'est sûr que ça inspire pour la mission dans le Sud. Hein? Bon. Et puis, on s'en va en Floride. Le bateau, il est gris et noir. Il n'est pas blanc pantoute. Mais je dis, c'est pas grave. Au moins, c'est un bateau. Tu sais. Essaies de faire fitter ton affaire dans... Tu sais, on est bizarre. Hein? En tout cas, moi, c'est peut-être pas vous autres. Là, vous êtes normal. Là. Mais savez-vous quoi? Il y a un riche. Ça se passe juste aux États-Unis, ces histoires-là. Je ne sais pas, le Seigneur n'a pas capable de passer les riches l'autre bord de la frontière, on dirait. Fait qu'il y a un riche américain qui passe, puis il nous voit. « Oh, il y a un missionnaire! » Là, il prend notre cook, il fait acheter plein de stocks dans un magasin, rempli tous les congélateurs du bateau, tout ça. Puis il regarde notre bateau et il dit, « Your boat is ugly. » Ça fait qu'il dit, « Regarde, Captain, come with me. » Fait qu'il pointe le capitaine. Il fait acheter de la peinture de bateau. Du primer à bateau puis de la peinture de bateau. Hey, ça coûte une fortune, ça. Et devine quelle couleur il choisit? Blanc! Puis là, après ça, le capitaine arrive avec plein de peinture et puis dit, OK, les gars, hey, the Canadian, parce qu'il y a que nous autres qui travaillaient, tu sais. We're going to paint the boat. Et puis là, je peigne les rouleaux avec toute la gang. Blanc. Tu sais, le bateau blanc au complet. Puis en plus, il fallait donner un nom, la Gracia, tu sais, la grâce. Et là, on pogne un pinceau, on écrit la grâce dessus. Puis je dis, attends, Seigneur, dans cette vision-là, tu te rappelles, je conduisais le bateau, selon Gérard. Mais je ne sais pas conduire, moi, là. La moitié de l'équipe, quand on part, c'est une tempête, tombe malade. Le capitaine vient voir ceux qui survivaient. Il dit, écoutez, les gars, double watch. Je vais vous apprendre, finalement, comment on navigue un bateau. Hey! Pastor Jeff? Come with me. OK, attends. Tu sais, comme dans les vrais films de pirates, là, la roue avec les choses. You're going to be in charge here. You're going to look at the radars. And puis là, il y avait, don't worry, there's always, il y a toujours un premier officier qui va être là. Et puis là, je suis là, je conduis le bateau en Haïti. J'ai pas été à l'école en plus. Puis là, ben, écoute, une nuit, là, je suis en train de conduire le bateau. Puis les larmes me viennent aux yeux en disant, comment tu fais? Comment tu fais, Seigneur? C'est vrai que tu peux même diriger des imbéciles profonds. C'est merveilleux. Je dis, dans ta parole, tu dis, même les saints ne peuvent pas se tromper dans ton chemin. C'est vrai. Par contre, c'est comme si on fait attention. Il y a juste une chose qui peut te perdre. L'arrogance, l'orgueil, la prétention, voir tes projets à toi. Reste à côté de moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et ça a été comme ça tout le long. Fait que la seule leçon que j'essaie d'apprendre à l'Église, discernons c'est quoi la volonté de Dieu. Faites attention de toujours voir ce qui ne va pas. Ça, c'est la job du malin, l'accusateur des frères. Moi, j'ai besoin des gens ici à l'Assemblée là, qui voient ce que le Seigneur fait. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous allez me voir. Vous, vous allez me voir. Hey! C'est ça qui nous a amenés jusqu'ici aujourd'hui, malgré toute la crise qu'on a passée en chemin. On l'a vu. Puis dans plein de projets. Même des projets, quand je me suis trompé, quand je vous ai raconté, quand j'avais acheté un terrain, tu sais, à Saint-Calix, parce que j'étais fatigué. Quand je suis fatigué, je vais me pousser dans le bois. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que ça n'avait pas de bon sens d'aller bâtir une maison dans le bois, puis laisser ma femme toute seule là-dedans, parce que c'est pas tiré de la carabine, anyway. Parce qu'elle me disait, ouais, mais s'il y a un ours qui arrive, qu'est-ce que je dois faire? Bien, si ça gratte ta porte, tire, pose des questions après. Tu sais. Bien là, j'ai réalisé, moi, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, ça n'a pas de sens ce que j'ai fait là. Au secours, Seigneur. Le gars qui m'a vendu le terrain, 5 ans plus tard, il m'appelle, il dit, « Hey, Jeff, qu'est-ce que tu fais avec ton terrain? » Je ne sais pas. Il dit, « Gars, mon fils a besoin de terrain, je ne veux pas y en vendre parce que moi, je vais perdre ça dans les impôts. J'ai dit, « M'a appelé Jeff, pas sûr qu'il va faire quelque chose avec son terrain. » J'ai dit, « OK, combien il veut me le vendre, l'acheter? » Il va te l'acheter le double. Je l'ai acheté 25 000. 5 ans plus tard, il m'a donné 50 000 pour le terrain. Ça, c'est des placements. Écoutez, c'est trop béni marcher avec Dieu. Arrêtez d'être trop bon. Vous savez, c'est quoi dans le dictionnaire un bon chrétien? Une grosse poire. Vous ne voulez pas être une grosse poire. Vous voulez marcher avec le Seigneur. Vous voulez découvrir son plan. Il y a des choses incroyables pour nous. Cherchons de tout cœur le Seigneur. Première attitude, on l'a chanté tout à l'heure. Il dirige les humbles. Il dirige ceux qui savent que ce n'est pas en nous. Avant, les apôtres l'avaient, vous le voyez, il dit, mais après, il va être en vous. Avant, il n'était pas en eux, il était en Jésus seulement. Jésus, il dit, c'est à votre avantage que je m'en aille, parce que maintenant, je ne serai pas en dehors de vous pour vous enseigner, je vais venir en vous pour vous enseigner. Il va être au milieu de nous et en chacun de nous. Et c'est pour ça que c'est important en nous de toujours essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur fait. Restons sensibles à sa personne. La doctrine nous aide à décoder. Ce n'est pas juste un livre de morale ou de philosophie, ça. C'est un livre qui nous enseigne comment le Seigneur restaure la relation avec son peuple, avec chacun de nous en particulier. Puis il dit, « Ayez pas peur dans quelles conditions je vous trouve. Homme, femme, esclave, riche, pauvre, peu importe. Restez dans la condition où vous êtes. C'est moi qui arrive. » Et là, il va nous montrer plein de choses et on va vivre des affaires absolument incroyables. Juste cette église, on a vécu une quarantaine d'années absolument inouïes. Si on serait aux États-Unis, il y aurait eu un livre qui aurait été écrit sur la Bible par nous. Mais on est au Québec. Je vais finir avec un texte pour que vous compreniez un petit peu mieux. Paul parle de la différence entre les œuvres du monde et celles du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, qu'on lit dans tous les mariages, qui ne devrait pas être lu là, mais ce n'est pas grave. En passant, j'ai un ami en France, à Lyon, je le salue, il s'appelle Jean, qui a fait l'exercice, et vous allez voir. On en a parlé il y a déjà plusieurs mois de ça. Mais il a fait l'exercice, lui, de changer le mot « charité » pour mettre « Christ ». Regardez bien ce que ça donne, 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas Christ, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas Christ, je ne suis rien. » Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Christ, cela me sert de rien. Christ est patient. Christ est plein de bonté. Christ n'est point envieux. Christ ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Christ ne cherche point son intérêt. Christ ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Christ se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Christ ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Nous professons, nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Pas beau, ça? Que le Seigneur au milieu de nous se révèle davantage. Amen.
Amen.
Merci.